C'est bon? Ouais? Bonjour. Hop, je m'installe. Réformez vos cœurs. Alors, c'était pour donner un titre, mais on va aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet de la réforme. Alors, le thème en ce moment, c'est plutôt l'Église en mission. Quand Farid m'a demandé si je pouvais prêcher, je lui ai demandé si je continuais sur ce thème et il m'a dit non, thème libre. Donc, on ne va pas être sur les actes forcément ce matin. Je crois qu'on en était à acte 13, dimanche dernier. Je vais parler ce matin de deux hommes qui ont reçu une mission particulière de l'Éternel. Alors, de deux réformateurs, j'ai envie de dire. On connaît des réformateurs. Il y a 500 ans, il y a eu la réforme. La réforme de quoi? De l'enseignement catholique qui était prodigué et qui avait connu des grandes dérives. L'Église catholique s'était vraiment embourbée dans l'idolâtrie, dans une crainte qui était due aux hommes plus qu'à Dieu, et dans un salut par la grâce qui avait été littéralement marchandé par les indulgences et d'autres choses. Et alors, ouais, ça capte. C'est bon? Voilà. Donc, c'est toi qui l'as changé ou c'est moi qui... Ouais, c'est bon. Donc, il y a quelques visages connus ou pas. C'est les photos d'époque. Des noms qui vous parleront ou non, voilà, quand on parle de réforme, Calvin, Luther, Zwingli et d'autres. Alors, ce sont les figures les plus connues, mais il y en a eu d'autres, même qui ont été précurseurs à cette grande réforme qu'on a connue, je dirais, par rapport à l'enseignement du catholicisme. Mais ce n'est pas sur cette réforme-là que je vais m'arrêter ce matin. Sur deux réformateurs dans l'Ancien Testament. Je vais parler ce matin de Josias et de Jérémie, du roi Josias et du prophète Jérémie. Alors, ce sont des passages que vous pourrez relire en détail chez vous si vous souhaitez, qui nous sont relatés dans les Chroniques et particulièrement aussi dans 2 Rois, chapitre 22 et chapitre 23, et les 6 à 7 premiers chapitres du livre du prophète Jérémie. D'accord? Alors, on est pour situer, je vais faire un petit aussi parallèle dans le contexte dans lequel on est environ entre 630 et 610 avant notre ère, avant Jésus-Christ, sur la fin de la période des rois. On va le voir après plus en détail, mais déjà le royaume du nord d'Israël était déporté en Assyrie. Et il ne restait plus que le royaume de Juda. Les rois d'Israël avaient été complètement balayés par le Seigneur, puisqu'ils étaient infidèles à lui. Et il ne restait que la lignée du roi David, et en l'occurrence, là, on en est à Josias. Et donc, Josias et Jérémie vont recevoir une mission particulière chacun. Alors, tout d'abord, Josias. Hop, on va étudier leur profil à l'un et à l'autre, un petit peu, sur différents plans. Josias, il a reçu une mission en tant que roi, pour montrer au peuple l'exemple qu'il doit suivre, comme un berger qui doit conduire le royaume de Juda sur, comment dire, dans les prescriptions de l'Éternel. Il nous est dit, merci, il nous est dit que, je vais la poser du coup, puisque ça passe tout seul. Que Josias fit ce que l'Éternel considère comme juste, et il suivit en tout l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. À l'âge de 26 ans, il va entreprendre des travaux d'entretien du temple, et il va envoyer son secrétaire, Shaphan, pour qu'ils remettent, pour compter l'argent qu'il y avait dans le temple pour payer les artisans. Donc jusque-là, quelque chose de très pratique, rien d'extraordinaire. Et quand Shaphan arrive au temple, le prêtre, Hilkia, lui remet un livre et lui dit « Tiens, on a trouvé ça dans les vestiges du temple. » Qu'est-ce que c'était ? C'était le livre de la loi. On va me dire bah, « C'est normal, on est dans le temple. » Quelle surprise de trouver le livre de la loi, c'est sa place, il devrait être là. Qu'y a-t-il de surprenant ? Mais on va le voir après, je vais y revenir plus en détail. Ça faisait des décennies et des décennies, voire des siècles, qu'il n'avait pas été lu. Des décennies, en tout cas. Plus d'un demi-siècle. Et donc, Shaphan, le secrétaire de Josias, le lit. D'abord, il le lit personnellement, lui-même. Et ensuite, il va trouver le roi et il lui lit entièrement le livre. A priori, ça serait le Deutéronome. Il va lui lire le livre de la loi. Et là, Josias va littéralement se repentir. Pourtant, il est dit qu'il avait déjà commencé en faisant ce qui était juste aux yeux de l'Éternel, mais il n'avait pas encore la connaissance de la loi. Et il va déchirer ses vêtements, s'humilier et pleurer devant l'Éternel. Et là même, il va convoquer ensuite tous les responsables du royaume de Juda, tout le peuple, hommes, femmes, vieillards, enfants, il est précisé, quelle que soit leur condition sociale, tous y sont convoqués. Et là, sur l'estrade, Josias lit intégralement le livre de la loi devant tout le monde. Alors c'est long, hein. Vous avez déjà lu le Deutéronome ou le Lévitique ou autre, hein. C'est long. Et tout le monde, et là il relit intégralement le livre de la loi devant tout le monde. Et il s'engage à obéir à toutes les prescriptions de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Et là, il est dit que tout le peuple dit Amen. À la fin du récit de sa vie, à la fin du chapitre 23, on peut lire ça, il est dit « Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces. » Je vous rappelle un commandement, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. » En observant toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Aucun avant lui, aucun après lui. Il y aura un autre roi, on va le voir quand même, qui va le dépasser dans ce domaine. Vous voyez de qui je veux parler. Et là, il va célébrer la Pâque avec tout le peuple, comme c'était prescrit dans la loi. Mais on a cette précision, chapitre 23, verset 21. De fait, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les chefs gouvernaient Israël et durant toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda. La période où les chefs gouvernaient Israël, c'est avant l'époque de Saül et des rois qui ont suivi, l'époque où il y avait les juges, d'accord ? Donc là, la Pâque avait été célébrée, puis ensuite elle a été très peu célébrée, voire pas du tout. Et en tout cas, il nous est précisé qu'il n'y en avait jamais eu une de pareille de toute l'histoire des rois d'Israël. C'est-à-dire pendant près de 500 ans. Voilà. La réforme que l'on a connue, nous, par rapport à l'enseignement de l'Église catholique, on a fêté le 500e anniversaire il y a peu de temps. Là, c'est à peu près le même laps de temps qui s'est écoulé, pendant lequel on n'avait pas fêté la Pâque, en tout cas pas de cette manière-là. Donc, il y a un retour très volontaire, je passe, mais il y a des choses vraiment profondes, des actes très concrets que va mener Josias dans cette réforme. La destruction des Baals, des idoles, des poteaux sacrés dans tout le pays de Juda. Le nettoyage du temple, et c'était un nettoyage costaud, parce qu'on va le voir, mais le temple avait été littéralement profané. Il y avait de la prostitution sacrée dans le temple, des poteaux d'Akéra dans le temple, etc. Et bien sûr aussi en dehors. Et là, il va le détruire littéralement. pas détruire le temple, mais le reconsacrer à l'Éternel. Sur un autre plan, donc, il y avait cette idolâtrie très très prononcée sur le royaume de Juda et bien sûr dans tout Israël, j'entends dans le royaume du Nord. Et il y avait une autre forme d'idolâtrie aux yeux de Dieu. Il y avait effectivement le fait de se prosterner devant des idoles, de mettre en elles notre confiance, mais aussi le protectorat que le royaume de Juda et Israël étaient allés chercher auprès d'autres pays, et en l'occurrence auprès de l'Égypte. Alors, à ce moment-là, il y avait la Syrie qui pressait, hein, mais on pourrait se dire, c'est normal, ce sont des relations diplomatiques, c'est ce que font tous les pays aujourd'hui, d'accord ? Mais Israël n'était pas un simple État, c'est pas un simple pays, c'est un peuple choisi par Dieu. Il est son protecteur. C'est lui son protecteur. Et le fait d'aller chercher la protection auprès de l'Égypte ou d'un autre pays est considéré comme un adultère aux yeux de Dieu. Et Josias, c'est très fort ce qu'il va faire. Il va rompre ce traité de protectorat. Il va détruire les idoles et rompre cette alliance, cette protection d'une superpuissance mondiale. C'est quand même quelque chose. On connaît des guerres proches de chez nous en ce moment. Imaginons rompre avec un pays super protecteur. Si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, c'est de la folie. Jérémie également va recevoir une mission. Et une mission qui sera plus profonde. Elle va être moins visible, moins apparente sur des aspects extérieurs. Ça va être d'amener les cœurs à la repentance, d'arracher. Il va recevoir réellement une mission d'arracher afin de planter une meilleure semence. Ah oui, j'avais mis cette slide, vous avez peut-être pu la lire. C'était concernant Josias. Si vous avez lu tout ce qu'il a enlevé, etc., c'est quand même assez fort. Et donc Jérémie, si tu veux bien, ouais. Le Seigneur va le trouver et lui dit, « Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger, l'Éternel le déclare. » Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, « Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire. » Il y a des messages plus encourageants quand même, quand on est prophète aujourd'hui, on préfère recevoir un ministère d'encouragement que de destruction, de ruine, etc. De construire et de planter. Il y avait tellement à arracher. Il y avait tellement à arracher. Et il va y avoir le livre des Lamentations de Jérémie, ça va être un prophète qui sera vraiment contrit dans son cœur, parce qu'il va devoir annoncer des choses à Juda, à Israël, qui seront très dures, parce qu'il sait que ça va se réaliser. Il annonce pas ce qui sort de sa propre bouche, il prononce les oracles de Dieu. C'est pas juste son inspiration, il prononce les oracles de Dieu et il sait que lorsqu'il le dit, ça va se réaliser et il sera vraiment contrit de ça. C'était la 13e année du règne de Josias quand l'Éternel l'appela. Donc c'est-à-dire 5 ans avant la réforme que Josias entreprend. Alors, très bien, ils ont reçu des super ministères, ça nous paraît simple presque. Hein, comme des fois, des grands ministères, on voit, il se passe des miracles, tout ça, et on se dit, bon, bah, c'est facile, c'est lui. C'est Billy Graham, c'est un tel, voilà. Donc, on va voir plusieurs points. Déjà, quelle était leur expérience, hein, leur background, un petit peu, leur CV, quand Dieu les a appelés. Josias, on commence par lui. 8 ans, quand il devient roi. Il n'y a pas Mathéo, mais si vous situez, hein, voilà, on a pu le faire avancer. Cet âge-là, quand il devient roi, 8 ans, Donc en termes d'expérience, zéro. Jérémie, il a 3 ans de moins que Josias. Ils sont totalement de la même génération, donc il a 5 ans à l'époque où son copain de la crèche il monte sur le trône. Ça peut être classe, hein. Mais ce n'était pas le contexte. Et donc, il aura à peu près 18 ans, on estime, quand le Seigneur l'appelle. Cette parole. Ah, si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Merci. Quand il reçoit cette parole du Seigneur, cette mission, il a 18 ans. Et. Ouais. C'est. Comment dire. La réaction de Jérémie, ce sera de dire, mais je suis qu'un adolescent. Il n'a pas reçu de l'expérience. Dieu ne le choisit pas pour son expérience. Le poids du passé. Le poids du passé et de l'héritage familial. Donc on a vu leur expérience zéro. Maintenant, on se dit, bon, peut-être qu'ils étaient issus d'une famille qui va leur apporter du poids dans leur ministère. Donc ça va les aider. Commençons encore par Josias. Son grand-père s'appelait Manassé. Manassé, ça a été un des pires rois de Juda. On a eu Akab dans le royaume du nord d'Israël. Akab et Jézabel. C'était une catastrophe. Et oui, si tu peux, s'il te plaît, avancer. On va lire un petit peu l'histoire du grand-père de Josias. Manassé était âgé de 12 ans à son avènement. Il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephtsiba. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et s'adonna aux mêmes pratiques abominables que les nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Il érigea des autels à Baal, dressa un poteau sacré à la déesse Akéra, comme l'avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant tous les astres du ciel et leur rendit un culte. Il construisit des autels païens dans le temple de l'Éternel. Malgré cette parole de l'Éternel, c'est là, à Jérusalem, que j'établirai ma présence. Il érigea des autels en l'honneur de tous les astres du ciel dans les deux parvis du temple de l'Éternel. Il alla même jusqu'à brûler son fils pour l'offrir en sacrifice. Il consultait les augures et les devins. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il multiplia les actes que l'Éternel considère comme mauvais et l'irrita de cette manière. C'était son grand-père, 55 ans de règne noir, les plus obscurs. Ah oui, j'ai pas fini, pardon. C'est pas fini, la liste est longue. Il fit dresser dans le temple la statue d'Akéra qu'il avait fabriquée alors que l'Éternel avait déclaré à David et à son fils Salomon: C'est dans ce temple et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que j'établirai pour toujours ma présence. Si les Israélites s'appliquent à obéir à tout ce que je leur ai commandé, à toute la loi que leur a communiquée mon serviteur Moïse, je ne les ferai plus errer loin du pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Mais les Israélites n'obéirent pas. Manassé les égara sur une mauvaise voie, en sorte qu'ils firent encore plus de mal que les nations que l'Éternel avait détruites en faveur des Israélites. C'était un jugement qui était tombé sur les nations qui occupaient le pays de Canaan, et l'Éternel avait placé ce peuple. Et ce roi a fait pire, il a fait encore pire. Le père de Josias, donc le fils de Manassé, Amon, lui n'a régné que 2 ans et il n'a rien fait pour améliorer la situation. Donc voilà un petit peu le background de Josias. On ne peut pas dire que ça aide pour prétendre à un ministère glorieux. Y a mieux encore une fois, sur le CV. Pour Jérémie, on a très peu d'informations sur son passé et sur sa généalogie. Si bien que ce qui est précisé peut avoir toute son importance. On va lire Jérémie 1, verset 1. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils d'Hilkia, l'un des prêtres qui habitait à Anato, dans le territoire de Benjamin. Je vais m'arrêter là. Et alors, je l'ai vu grâce à un commentaire qui était fait dans la Bible, et du coup, je suis remonté à ce passage-là. Qui étaient les prêtres qui vivaient à Anato ? On remonte du temps de Salomon, donc plus de 400-450 ans en arrière. Et là, lorsque Salomon a été intronisé, Adonia, un des fils de David, a voulu prendre sa place, avant même que Salomon soit oint pour être roi. Et donc il a conspiré avec le chef de l'armée, Joas, et avec le prêtre qui était alors en service et qui s'appelait Abiathar. Et donc, c'est quand même Salomon qui est oint roi, malgré l'onction que Abiathar avait accordée à Adonia. Et toute la ville se réjouit, etc. Je passe des détails. Et là, Salomon est au trône. Le faux roi, d'un court instant, de quelques heures à peine, Adonia prend peur. Il va se soumettre à son frère, mais après il essaiera encore de jouer de ruse pour prendre sa place. Et Abiathar, le prêtre alors en fonction, est chassé. Il n'est pas tué, il a la vie sauve, mais toute sa lignée de prêtrise est exilée dans une ville qui s'appelle Anato. Il ne nous est pas dit, je ne vais pas vous mentir, que Jérémie, on n'a pas sa généalogie, il ne nous est pas dit qu'il est le petit-fils, tout ça, d'Abiathar. Ceci dit, il y a de très fortes chances quand même, mais retenez-le pas à 100%, mais ça peut quand même être un indice qui nous est donné. Les prêtres qui étaient à Anato, originellement, étaient ceux qui avaient été exclus du service. D'accord ? Donc là, encore, j'ai envie de dire sur le CV, c'est pas terrible de dire je suis prêtre. Ah oui, tu exerces où ? Bah, j'exerce plus, je viens de. Je suis l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de celui qui a trahi le roi et qui a été excommunié. Voilà. Et j'ai envie de revenir sur ce verset. Est-ce que je l'ai noté ? Tu veux bien passer, s'il te plaît ? Voilà, juste là pour le moment. Jérémie 1, verset 5. « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. » C'est l'Éternel qui parle. Je peux passer juste à l'étape suivante. Ni Josias, ni Jérémie ne dépendent de leur héritage familial pour répondre à l'appel du Seigneur. Et j'ai envie de vous poser cette question aussi. Poser à chacun de nous, de qui dépends-tu pour répondre à son appel ? Le Seigneur a une mission pour chacun de nous. On parle de l'Église en mission en ce moment, et tous, on est appelés à quelque chose. Pas besoin d'être prophète pour ça, c'est biblique. On est tous appelés à servir. Le poids du passé, on peut tous en avoir, bien sûr, avec des gradations totalement différentes, mais dans tous les cas, c'est le Seigneur qui appelle et c'est le Seigneur qui restaure. Laisse ces paroles-là déjà. Il y a le poids du passé, mais il peut aussi y avoir le poids du présent et du contexte dans lequel on évolue. Comment réformer un pays qui tout entier s'adonne à l'idolâtrie ? Comme dit, on peut raisonner en faisant des raccourcis. Pour Josias, c'est facile, il est roi. Le roi, il fait ce qu'il veut, il n'est même pas président. Là, on voit, il y a une réforme qui est en train d'être passée. Facile ou pas facile, c'est en tout cas, il y a des réactions. Il est roi, il n'a même pas à consulter le Parlement. Il fait ce qu'il veut. Et pour Jérémie aussi, on pourrait dire, c'est facile, c'est un des plus grands prophètes envoyés par l'Éternel. On va lire Jérémie 1, verset 6. Voilà la réponse de Jérémie. « Hélas, Seigneur, je ne sais pas m'exprimer. Je suis un adolescent. » Voilà. C'était pas si simple pour lui. Et le message qu'il va recevoir ne sera pas léger. Ce sera pas juste va trouver ton voisin pour lui dire que je l'aime. D'accord? Bien que ce soit très important comme message et c'est pas facile, mais là, il aurait préféré avoir des paroles d'encouragement à donner plutôt que des jugements à prononcer. Il n'avait pas suivi des cours d'épanouissement personnel ou autre, et on va voir que par la suite, il n'y a rien qui va l'encourager dans ce sens. Le contexte du présent, l'environnement. Alors, si tu veux bien passer. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite carte pour situer toute la partie, tac là, en rose tout au-dessus. C'est le royaume du nord d'Israël, qui déjà depuis plusieurs décennies et plus d'un siècle a été déporté en Assyrie, parce que tout ce que les rois qui faisaient était en horreur aux yeux de l'Éternel. Et donc, il reste le royaume de Juda ici. Petite enclave. Et donc Josias est roi de ce royaume. Hop, tu peux passer. Et là, je vous ai fait une petite frise en reprenant la succession des rois et du royaume du Nord et du royaume de Juda. Et à chaque fois, il nous est dit à quel âge ils arrivent au trône, combien de temps ils ont régné et s'ils ont fait ce qui était juste ou ce qui est était bon. Et on a un classement plus ou moins bien. On commence par le royaume d'Israël. Ce royaume a subsisté à peu près pendant 241 ans. Alors je parle du royaume du nord d'Israël, d'accord? Là, cette frise, elle est à peu près sur 240 ans. 18 rois se succèdent sur 6 dynasties différentes, c'est-à-dire bon, bah, des lignées qui vont changer, hein, d'accord? D'une génération à l'autre. Ce sont les traits noirs que j'ai mis. Voilà, ce sont les différentes coupures de dynastie. Sur 18 rois, 17 sont totalement idolâtres. Et il y en a un, Jéhu, qui fait un peu la différence. J'ai pas osé le mettre en vert non plus. Il a détruit des Baals, mais il va laisser les veaux d'or fabriqués par le premier roi Jéroboam, qui était arrivé en règne au royaume du Nord. Et donc, ils vont être déportés en Assyrie. Et tout le royaume du Nord va être repeuplé par des peuples païens. Frise suivante, le royaume de Juda. Donc là, ça s'étend sur 500 ans. Et le schisme date du fils de Salomon, à cause des actes de son père. Salomon a introduit énormément d'idolâtrie dans le pays d'Israël. Et là, la sentence, le jugement qui va être prononcé, ce sera la séparation du royaume d'Israël. Et c'est son fils, Roboam, qui va connaître ce schisme-là. Donc Jéroboam, le premier roi du royaume du Nord, va débuter ici, voilà, pendant 240 ans, à peu près jusque vers ici. Et le royaume du Nord s'arrête là et est déporté en Assyrie. Et donc, on a deux dynasties, on va dire, différentes. On a Saül isolément, on a un faux départ. Et à partir de David, on a une seule dynastie, celle dont sera issu Christ. Sur 22 rois, 11 sont idolâtres, dont Manassé qui va aller, comme on l'a vu, jusqu'à la profanation du temple. 7 rois dont il est dit qu'ils sont bons, mais il est précisé à chaque fois qu'ils ne détruisirent pas les idoles. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout des choses. Ce sont ceux que j'ai mis en jaune ou orange. Et on a 4 rois qui n'ont pas laissé place aux idoles: David, Asa, Ézéchias et Josias. Sur 500 ans, c'est court, c'est triste. Sincèrement, quand j'ai préparé ça, j'avais envie de pleurer. C'était lourd sur mon cœur de me dire, mais ce peuple qui a reçu les promesses, l'alliance, tout ça, ce pays promis, vous voyez juste les couleurs si tu veux reswitcher d'un écran à l'autre, mais c'est catastrophique. Quel gâchis, quel gâchis. J'accélère un petit peu. Si tu veux, hop, aller à la suivante. Donc voilà le contexte géopolitique pour Josias. On a le royaume d'Assyrie qui grandit, et qui pousse là en venant du nord pour envahir Juda. Et on a l'Égypte, si tu veux appuyer un coup, qui se propose, hein, un grand seigneur, de venir en aide. Bien sûr, c'est très intéressé parce qu'il y a Juda encore qui sépare ces deux puissances, et l'Égypte voudrait bien contrer la Syrie. Josias, comme dit, refuse de mettre sa confiance en l'Égypte et il va rompre ce traité. Voilà. Pour Jérémie, ça ne sera pas facile non plus. Je ne vais pas trop développer ici. Vous avez compris que ce n'est pas simple pour Josias. Il ne suffit pas d'être roi. Il a 26 ans. Certes, il règne déjà depuis un bon moment, hein. Ça fait 18 ans qu'il règne, mais il a commencé à l'âge de 8 ans. Donc là aussi, on peut facilement imaginer, vu les conseillers qu'il avait auprès de son père, il a 8 ans quand il arrive au trône, c'est pas ses amis fidèles qui vont le conseiller. Ils sont encore un peu jeunes. Jérémie, selon les différentes traditions qui sont rapportées, je ne parle pas de ce qui est écrit dans la parole, il aurait fini soit lapidé ou scié dans un tronc d'arbre où il se serait réfugié. Dans Hébreux 11, d'ailleurs, il est question de ceux qui ont été sciés, hein. Bon. Et le pire de tout, c'est que c'est en Égypte, alors qu'il disait aux dirigeants de Juda de se soumettre aux Babyloniens qui vont prendre le dessus sur les Assyriens ensuite. Il prenait la reddition de la part de l'Éternel et ceux de Juda qui s'opposaient à lui l'enlèvent littéralement et l'emmènent en Égypte, alors qu'il leur disait ne mettez pas votre confiance en Égypte et c'est là qu'il va mourir. Je trouve ça, mais consternant encore. On trouve pas d'espoir quand on lit ça. On se dit, mais c'est fini, c'est vraiment noir. C'est vraiment noir. Comme dit à la fin de son récit, pour Josias, je le relis, aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel, de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en parut de semblable. En tout cas, jusqu'à Jésus-Christ. J'avais envie de développer par rapport à l'intensité de l'idolâtrie qui était présente à ce moment-là, de développer des parallèles pour nous aujourd'hui. Je sentais que c'était pas encore le moment, en tout cas pas pour ce matin. Et je veux vraiment inviter chacun à s'examiner soi-même dans son cœur, de se dire, qu'est-ce qui occupe dans mon cœur une confiance qui est due à Dieu ou une crainte? Vous savez, en chimie, il y a ce qu'on appelle des révélateurs pour mettre en évidence la présence d'une substance dans un corps, quel qu'il soit. D'accord? Ce sont des éléments invisibles, ils sont présents, et quand on met une autre substance, boum, il y a du bleu ou autre qui s'affiche. Bien souvent, la crainte est un très bon révélateur chimique de nos cœurs pour savoir où est placée notre confiance. D'ailleurs, la crainte, entre parenthèses, est due à Dieu. Et si on craint Dieu de tout notre cœur, c'est comme avoir 2 mètres. C'est pas possible de craindre et Dieu et les hommes. D'accord? C'est souvent ce qui prend la place. On ne peut pas accorder de la place à tout. Et si on craint Dieu de tout notre cœur, il y a moins de place pour la crainte des hommes. Je ne vais pas développer tout ça, je vais plutôt m'arrêter sur quelque chose qui m'a vraiment parlé. Ce que j'ai envie de dire, un acte prophétique qui était en vue de l'œuvre messianique. On a le nettoyage du temple. Josias a débarrassé le temple de toutes les idoles. Et comment dire, Jérémie derrière, il continue à pilonner le peuple, il continue à pilonner les dirigeants aussi qui vont suivre d'un vrai retour à l'Éternel. Pourtant, il y a une réforme, mais Jérémie sait que c'est pas de tout cœur que le peuple, même si quand Josias, il était sur l'estrade, qu'il a lu la loi, tout le monde a dit oui, amen, il sait pertinemment qu'ils suivent un homme. Et pourquoi Là, je me dis, quand on reprend le passage où le peuple, à la sortie d'Égypte, a dit, il a eu peur de l'Éternel, et il a dit, non, non, parle à Moïse, pas à nous directement, parle à Moïse. Et quand le roi fait n'importe quoi, tout le peuple suit, comme du temps de Manassé. Quand un roi juste comme Josias intervient, il est une barrière pour le peuple, il est un frein, mais il n'a pas le pouvoir de réformer les cœurs. Et Jérémie pilonne de la part de Dieu ce message de repentance profond. Et au chapitre 7, vous pourrez le lire en entier, Jérémie va prononcer des paroles, tu peux l'afficher. Il va dire « Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. » C'était quoi ces paroles trompeuses ?« Voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici le temple de l'Éternel. » disaient ses contemporains, parce qu'ils avaient le temple au milieu de leur ville. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de justes jugements dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous, vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Jérémie est en train de dire au peuple d'Israël, peuple de Juda, vous idolâtrez le temple. Vous placez votre confiance dans le temple alors que dans ce temple, vous avez retiré la présence de Dieu. Vous croyez que vous êtes à l'abri du jugement de l'Éternel parce que vous avez le temple au milieu de vous ? Vous croyez que d'avoir reçu les promesses de Dieu suffit pour être sauvé ? Chacun d'examiner son propre cœur pour voir qu'est-ce qui nous leurre dans notre tradition, dans notre héritage familial, dans tout ce qu'on place avant le sang de Jésus-Christ pour nous sauver. Le temple ne sauvait personne. C'était une grâce de Dieu pour manifester sa présence au milieu de son peuple. Parce que Jésus-Christ, n'étant pas encore venu, ne pouvait pas encore faire sa demeure en eux. Il avait besoin que Christ vienne pour qu'il fasse son habitation dans des cœurs de chair et non dans des cœurs de pierre, comme Ézéchiel va l'annoncer. Hop, la slide suivante. Et là, il y a un passage qui m'a particulièrement parlé et qui m'a amené justement à faire ces parallèles-là. Jérémie poursuit sur cette parole de l'Éternel et il leur dit « Quoi ? Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères, vous faites des serments mensongers, vous offrez des parfums à Baal et adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus. Et puis vous venez vous tenir devant moi dans ce temple qui m'appartient et vous dites « Nous sommes en sécurité !» Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient est-il à vos yeux une caverne de brigands ? Demande l'Éternel. Et l'Éternel répond, « Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi. » L'Éternel le déclare. Et qui viendra plus tard ? Cette parole, c'est environ 650 ans avant la venue de Christ. Et l'Éternel, déjà, avait dit, « Vous avez fait de ce temple une caverne de voleurs. » Et Jésus va venir 650 ans plus tard et leur dire « Vous avez fait de ce temple une caverne de brigands. » Et il va renverser les tables des marchands. Il va renverser tout ça. Je vais lire le jour qui précède la Pâque. La dernière Pâque que Jésus va célébrer avec ses disciples. Vous pouvez retrouver ces passages en Matthieu 21, Marc 14 et Luc 19. Je prends que quelques bribes. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent, donc Jésus et ses disciples, près du village de Bethphagé, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et emmenez-les-moi. » Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète. « Dites à la communauté de Sion, Voici ton roi qui vient à toi, humble. Il vient monter sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, » disait-il. Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. « Ah, » dit-il, « si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. » Tu peux passer, s'il te plaît. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Tu peux passer. On a plusieurs parallèles. Josias qui nettoie le temple et tout le pays des idoles. Il va recélébrer la Pâque comme jamais elle n'avait plus été célébrée du temps des rois. Et après cela, environ 20 ans, l'arrière-petit-fils de... troisième roi après Josias, Sédécias, le temple, l'invasion babylonienne, le peuple est déporté, et même ensuite le temple sera détruit et reconstruit plus du temps d'Esdras et Néhémie. Jésus, on voit ce parallèle, il va renverser les tables des marchands dans le temple en reprenant la parole prophétique de Jérémie. Le même jour où il renverse les tables dans le temple, il annonce la destruction du temple qui va se survenir 70 ans, je crois, à peu près après ça. C'est étonnant quand même. C'est étonnant. Et il va prendre une dernière fois la Pâque avec ses disciples. Pareil, comme Josias qui re-célèbre la Pâque. Mais là, il va instaurer une Pâque comme Israël et comme l'humanité n'avait jamais connue. Il va instaurer la vraie Pâque, il va incarner l'ombre des choses qui annonçaient qu'il allait être immolé. Tu peux passer ? Jésus dira un peu avant ça, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux passer ? Dans Ézéchiel 36, il était prophétisé, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les peuples. » Je passe un petit peu, j'accélère. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Mon esprit en vous. » C'est l'Éternel qui parle. « Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Éphésiens 2, Paul nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, etc. etc. » C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Et si tu veux passer encore, s'il te plaît. Ouais. J'ai été long. Excusez-moi, mais c'est là où vraiment je veux en venir. On peut pointer du doigt l'histoire d'Israël, toute l'idolâtrie qui s'est instaurée, même très rapidement, dès Salomon. Et on voit à quoi ça a mené, la séparation avec Dieu, encore une fois. Alors que, j'ai envie de dire, heureusement, son alliance est fidèle et qu'elle ne dépend pas de nous. Mais nous avons eu un sacrifice plus grand, il nous est dit, que celui des boucs et des agneaux et des taureaux. Et nous avons aujourd'hui un temple plus grand que celui qui a existé. Des fois, on entend parler de la construction du troisième temple ou autre. Attention, le temple qui est là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne nous remettons pas à chercher des choses de façon idolâtre. Mais attention à ce qu'on laisse entrer dans ce temple. C'est midi, je vous laisse là, et j'invite vraiment chacun de nous, et moi-même, pendant la préparation de ce message, et encore, à examiner nos cœurs. Je ne veux pas laisser quelque chose, enfin, si, je veux laisser quelque chose de pesant sur vos cœurs, pas pour vous attrister, mais de dire, s'il y a eu toute cette histoire, vous avez vu la succession des rois, le tableau est rouge écarlate, aujourd'hui, sans l'œuvre de Christ, je ferai la même chose. Soit je suivrai un leader injuste aux yeux de Dieu, comme un mouton, soit j'en serai moi-même un. Seigneur, merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Merci parce que, alors que nous étions comme des brebis errantes, toi, tu es venu, notre divin berger, pour nous montrer la voie. Tu es le chemin, la vérité, la vie, et tu nous conduis dans toute la vérité par ton Esprit Saint. Père, je te prie de révéler en nous, Seigneur, tout ce qui occulte la place, l'honneur, la crainte qui t'est due, Seigneur, afin que ton temple, Seigneur, soit un lieu de prière, Seigneur, et de témoignage pour toutes les nations. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.